mon exposé sera de l'ordre de la... Comment dire, je me sens un peu comme un intrus dans ce milieu parce que je ne vais pas parler des relations littéraires, je vais parler de toute autre chose, mais qui est en rapport avec les relations littéraires aussi. Sauf que dans ma conception de ces choses, des relations littéraires, il faut, je pense, aller un peu au-delà de ce qu'on perçoit exactement comme littéraire et parler des relations en général, un peu plus générales, disons, des relations culturelles entre un petit pays comme la Hongrie qui se modernise à partir, d'après les historiens sociaux du 19e siècle, qui se modernise sur le modèle des grands pays d'Occident, des différents grands pays d'Occident. Il y a donc une problématique très spécifique d'histoire culturelle, des relations, je dirais plutôt des rapports de force, d'une part entre les grands pays qui servent de modèle, c'est-à-dire la France, les États germaniques et puis les pays anglo-saxons, disons pour être rapide, et puis un petit pays comme la Hongrie, d'une part, d'autre part, les intérêts particuliers et très multiples d'un petit pays, avoir des relations avec l'un ou l'autre, plus avec l'un qu'avec l'autre de ces grands pays modèles. Donc, je pense que toute cette problématique de relations littéraires aurait besoin d'être replacée dans cette plus problématique un peu plus vaste. Et là, je dirais un peu rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, que la Hongrie était une sorte de colonie culturelle germanique. Alors, germanique, c'est très vague, mais c'est la réalité qui revient à dire que tout est parti de la Prusse. On était une colonie culturelle de la Prusse au sens où toutes les grandes innovations institutionnelles pour moderniser les instances de production de la culture venaient de la Prusse, essentiellement le système académique, le système universitaire et tout le système éducatif en général. Évidemment, la Prusse, c'est un peu loin, l'Autriche comme relais. On a, pour les institutions, très souvent copié tout simplement ce qui a existé d'abord en Prusse à partir du XVIIIe siècle et puis en Autriche, à Vienne très concrètement à partir de plutôt du 19e. Bien, alors cette je ne dis pas qu'il s'agit de colonisation parce qu'on était membre de l'Autriche-Hongrie, donc la situation coloniale est donnée de base. Et je dirais là qu'il faudrait aussi penser aux autres types, aux autres champs de relations qui sont le champ économique évidemment, le champ politique. Et alors notre collègue Sass a évoqué plusieurs fois l'importance des interventions étatiques, politiques dans ces relations. Et il y a d'autres types de relations comme les voyages, les facilités de pérégrination d'étudiants, etc., qui interviennent dans ce contexte. Mais je dirais en deux mots que derrière cette colonisation, cet état de colonie germanique, le pays a été marqué aussi par une sorte de, enfin bon, c'est un peu mal dit, de colonisation intérieure, mais le fait que dans la modernisation de la Hongrie, au 19e et puis 20e, surtout dans la première partie du 20e siècle, il y avait des groupes de culture germanique qui ont joué un rôle particulier, c'était les Allemands de l'intérieur. Alors au 19e jusqu'en 1900, jusqu'à l'existence de la monarchie, on avait à peu près entre 12 et 15% de population de culture germanique. Lorsque je dis population de culture germanique, c'est une expression très vague puisque ça peut vouloir dire des population qui parlait l'allemand comme langue maternelle, donc qui avait effectivement une culture de base germanique, et puis des gens soi-disant assimilés, c'est-à-dire qui ne parlaient plus ou peu l'allemand, mais qui étaient d'origine allemande et qui portaient, là encore je parle très rapidement, l'éthos ou tout l'héritage éthique culturel de ces populations germaniques. Et là, il faut parler évidemment de la division confessionnelle de la Hongrie du 19e et du 20e jusqu'à maintenant. Et dans cette division confessionnelle qui est exceptionnelle, alors tout le monde sait que la Hongrie est le seul pays de l'Europe qui a bâti un État-nation sans majorité confessionnelle jusqu'à l'existence de la Grande Hongrie, c'est-à-dire jusqu'en 1919. Alors c'est très important parce que lorsque je parle de culture germanique, il faut y penser aussi les Juifs qui avaient comme idéal culturel la haute culture germanique, enfin dont la première langue de culture était l'allemand. Et dans certaines régions de la Hongrie, dans l'Ouest particulièrement, il y avait une population juive qui venait des pays germaniques ou germanisés comme la Bohême ou l'Autriche directement, et dont la première langue était l'allemand. Bon. Alors ça a une certaine importance qui est toujours systématiquement sous-estimée et dont je me permets de vous rappeler que j'ai beaucoup publié, parce que cette population de juifs germanisés et puis hongarisés, c'est-à-dire mondialisés, avec les autres groupes très divisés, là encore, de populations germaniques, ont joué un rôle exceptionnellement fort dans la modernisation du pays. Alors, ça se mesure par exemple, lorsque vous prenez la population estudiantine du 19e ou jusqu'aux premières décennies du 20e siècle, vous retrouvez systématiquement une majorité d'étudiants, c'est-à-dire une majorité de la jeune intelligentsia qui viennent de ces milieux-là. Alors, pas seulement des Allemands, chrétiens, mais bon, plutôt de ces milieux juifs de culture, largement de culture germanique, modernisée. Donc, toute cette histoire est un peu compliquée. Je vous rappelle simplement que pour penser des relations avec une grande puissance culturelle que la France, qui pouvait servir de modèle de modernisation, là encore pour parler rapidement, il faut penser aussi les dispositions de pays d'accueil, la Hongrie, et puis des élites d'accueil hongroises, notamment les élites cultivées hongroises, des dispositions à accueillir ces relations, à réaliser ces relations et prendre ces pays comme une sorte de modèle dans leur effort de modernisation, enfin, effort de modernisation du pays. Bien. Alors, une fois dit, je rappelle tout simplement que si vous prenez la formation de l'intelligentsia hongroise, quels que soient les indices, j'ai l'indice qui est tout à fait clair, que si vous prenez des catégories comme médecin, comme un peu moins comme avocat, ou comme professeur, même les grands ponts de l'histoire littéraire hongroise du 19e siècle, vous retrouvez assez souvent, et si vous faites un minimum de statistiques, vous retrouvez souvent une majorité de gens de souche allemande, culturellement parlé, c'est-à-dire à la fois des Allemands luthériens, des Allemands catholiques, et puis, à partir de la deuxième moitié du 19e, de plus en plus, les Juifs. Donc, il faut pas, on ne peut pas faire abstraction de ces données de base. Alors, deuxièmement, d'où vient l'importance de plus en plus grande des relations avec la France et l'impact culturel de ces relations sur le développement de la civilisation hongroise. Alors ça vient, je pense, essentiellement avec le compromis, parce que après le compromis, dans l'administration hongroise, il y avait comme une sorte d'effort de compensation de cet état de colonie culturelle germanique, et l'effort de compensation se faisait par le recours à la France. Alors bon, je cite quelques exemples très simples qui sont pas très connus, mais enfin bon, qui sont, je pense, essentiels. Il y avait, tout à l'heure, on a évoqué plusieurs fois le Collège Eötvös. Le Collège Eötvös est une fondation dont le modèle est l'école normale supérieure. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, ce n'est pas identique, même dans sa fonction, pas tout à fait identique à celle de l'école normale. Cela dit, le modèle, c'est très clair, c'était l'école normale. Bon, un exemple moins connu, c'est que lorsqu'on a créé la deuxième université hongroise, c'est-à-dire à Kolozsvár, on a fait une chose qui n'existe nulle part en Europe. Il paraît qu'à Tübingen, ça existait, c'est-à-dire la séparation des deux branches des études classiques littéraires, enfin littéraires entre guillemets, il s'agissait des facultés philosophiques, soi-disant philosophiques, c'est-à-dire on prenait à part les lettres, et puis les sciences, comme dans l'université française. Donc, encore une fois, c'est une situation unique en Europe, parce que partout ailleurs, les soi-disant facultés philosophiques étaient issues des anciennes facultés philosophiques datant du Moyen-Âge, parfois. Et donc, nous aussi, c'est une, indirectement ou directement, très clairement, c'est une influence française. Bon, il y a d'autres indices de l'importance du français qui intervient. Par exemple, le fait que dans les lycées hongrois, le français n'est pas, dans les lycées classiques, le français n'était pas introduit comme langue obligatoire. La langue obligatoire, c'était le latin et l'allemand. Mais dans les lycées non classiques, les soi-disant Realschule, et le français était la deuxième langue obligatoire. Donc le français officiellement intervient pour une partie importante de la formation des classes moyennes cultivées comme le deuxième choix obligatoire. Bien. Alors, je ne parle pas de d'autres indices. On peut parler par exemple des pérégrinations d'étudiants, qui est un indice difficile à traiter, parce que l'essentiel des pérégrinations allait dans les pays germaniques. Étant donné les liens qui étaient institutionnels entre les universités hongroises après le compromis de 67 et puis le champ germanique des universités, c'était le modèle dominant. Cela dit, la France a joué un rôle considérable dans une autre forme de pérégrination qui n'était pas de s'inscrire dans une université française ou prendre un diplôme dans une université française, mais j'ai du mal à appeler, tourisme culturel, mais un tourisme culturel qui s'imposait à tous les intellectuels importants qui se respectaient, c'est-à-dire aller à Paris et se mettre au pied des grands penseurs de l'université de la Sorbonne et revenir en introduisant souvent ce qu'ils ont entendu. Ça concerne par exemple Oscar Yassi, qui a passé une demi-année à Paris en 1905 et qui en est revenu pour fonder par exemple une école des sciences sociales libres, ça s'appelle l'école libre des sciences sociales, sur le modèle de ce qui a existé à Paris à cette époque-là. Bien, alors je dirais donc que les relations dans d'autres champs comme les sciences sociales, la sociologie, étaient marquées par cet effort de compensation de la dominance allemande dans le champ culturel hongrois. Tiens. Alors, venons-en au problème de la sociologie, parce qu'essentiellement, je vais en parler ici, comme intrus, encore une fois, dans votre savante compagnie. Il y a un mythe, là, du retard hongrois, qui est relativement facile à mettre en doute et mettre en question. La sociologie s'est construite comme discipline consciente de sa spécialité à peu près au même moment que cette discipline s'est construite ailleurs dans les grands pays occidentaux, à commencer par la France et l'Allemagne, et sans parler de l'Autriche évidemment, parce que ça a commencé un peu plus tôt qu'en Autriche, de façon disons systématique comme institution, avec ces institutions. On sait que l'année sociologique en France a été publiée pour la première fois en 1898, que le premier livre, j'ai une information précise, le premier livre allemand qui a porté le nom sociologie date de 1883 seulement, donc très très tardif. Alors en Allemagne, il est vrai qu'il y avait déjà une sorte d'organisation, mais qui était plutôt une assemblée de savants économistes, Verein für Sozialpolitik, qui date de 1873, mais un professionnel des sociologues en Allemagne date de 1908 seulement, et en Autriche à peu près au même moment où la profession s'est organisée en Autriche aussi, alors qu'en Hongrie ça date de 1900 avec le nouveau siècle. C'est une fondation de divers penseurs qui s'occupaient des problèmes économiques, sociaux, culturels de la Hongrie, et qui ne trouvaient pas d'organes pour publier leurs constats. Et on lit la fondation de la sociologie hongroise à une revue qui est la revue Huszadik Század, 20e siècle, et qui, encore une fois, était la création d'une coalition de partenaires, dont Oscar Jassy, déjà nommé, mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas tout à fait du même bord, parce que Oscar Jassy a dès l'abord eu un programme politique pour dont la Huszadik Század devait être à la fois l'illustration et le porteur, le distributeur, le vulgarisateur en quelque sorte. Bien, alors, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire de la sociologie hongroise, je rappelle simplement que sous ce rapport, on n'était pas en retard, mais on était dans le courant, dans cette espèce de période de formation, comme ailleurs en Occident. Cela dit, pour illustrer les relations d'intérêt avec les grands pays producteurs de sciences sociales, j'ai un certain nombre d'observations qu'il faut que je vous montre. C'est un premier indice, il y en a beaucoup d'autres, on pourrait en trouver d'autres. C'est un indice de l'importance des différentes, disons, puissances culturelles dans l'univers de référence des deux premières revues hongroises en sciences sociales. Alors, bon, là il aura fallu dire que Huszadik Század est devenue la revue de la branche radicale des sociologues, tandis que l'autre revue ici citée est devenue la branche, disons, nationale, nationaliste du même groupement. Et les deux se sont scindés en deux dans des conditions assez dramatiques en 1906. Donc il y avait une scission dans le mouvement sociologique hongrois qu'il faut rappeler. Alors bon, il s'agit des publications dans les deux journaux et puis de leur univers de référence. Et là, ce qu'il faut remarquer, c'est que les références à des textes, à des travaux hongrois sont minoritaires par rapport aux références allemandes. Bon, voilà, c'est une sorte d'illustration de la persistance de cette relation privilégiée avec dans les sciences sociales avec l'Allemagne. Cela dit, en deuxième position, vous avez la France, vous avez les références françaises, et puis en moins bonne position, les références à des auteurs anglais et puis italiens et d'autres. Alors, première remarque, tout de même, ça montre à quel point la sociologie hongroise a commencé d'être une sorte de dépendance volontaire. Ce n'était pas de la colonisation imposée, une sorte de dépendance volontaire de ce qui se faisait en Occident, en particulier dans ces trois grandes civilisations allemandes, françaises et anglaises. Alors, si on compare les deux revues, c'est-à-dire la revue radicale plus proche du radical socialisme à la française qu'autre chose, et puis la deuxième qui était la revue, disons, des sociologues, encore une fois, entre guillemets, nationalistes, on voit une différence tout de même assez nette, que dans la deuxième revue, les références à la Hongrie, enfin aux publications hongroises, sont beaucoup plus importantes, alors que les références aux publications françaises sont beaucoup moindres. Là, bon, il faudrait aller dans les détails, regarder quelles sont, de façon concrète, les références. Mais mon hypothèse de base, c'est que à l'époque, la sociologie française était également dans le champ idéologique français à gauche. C'était l'affaire Dreyfus, c'était la situation de l'après-affaire Dreyfus. Et on peut dire que l'intérêt des nationalistes, des sociologues nationalistes, était moins capté par les références françaises, d'où l'importance beaucoup plus grande des références anglaises comparées à Rousseau d'Ixelles. Bien. Alors, on peut aller un peu plus loin. Alors là, j'ai un autre indicateur du même type dans l'entre-deux-guerres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres? On a refondé une association sociologique qui était sur le modèle du régime chrétien, entre guillemets, qui s'est installé après 19 dans la Hongrie tronquée de Trianon. Alors, dans cette nouvelle association sociologique, j'ai pris la mesure à peu près identique, c'est pas tout à fait identique, mais presque, des références, de systèmes de références, et on perçoit tout de suite que les références à l'étranger, de façon générale, se diminuent, se sont diminuées de façon visible, et les références au texte hongrois, c'est-à-dire l'autoréférence, le système des autoréférences, s'est augmenté considérablement. Cela dit, le rapport avec les trois grandes puissances culturelles se sont entièrement transformées, sauf au début. Au début, la domination relative de l'Allemagne est toujours là, mais par la suite, cette domination diminue, et ça, c'est assez remarquable. Le statut du français aussi diminue dans ce système de relations, et puis vous voyez très clairement la montée de l'influence anglo-saxonne. Bon, je ne veux pas commenter parce que là, il faudrait là encore rentrer dans le détail, mais ça montre que derrière la montée de l'extrême droite et puis de rapprochement avec l'Allemagne, dans le champ culturel, même dans une institution qui était conservatrice d'esprit et subventionnée par le gouvernement du régime chrétien, il y a une transformation intéressante du système référentiel intellectuel en faveur d'une nouvelle grande puissance, enfin nouvelle pour la Hongrie en tout cas, c'est-à-dire la civilisation anglo-saxonne. Non, mais parce que là j'ai des choses très curieuses et très intéressantes à vous montrer, c'est-à-dire des détails. Ça relève de mon atelier de recherche. Nous avons fait un énorme travail sur les journaux digitalisés qui existent désormais. Ils sont accessibles à la recherche, même à la recherche très technocratique, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on peut identifier les citations, les références à des personnes, des noms. Alors, j'ai là, dans ce premier tableau, les noms des principaux, des principales écoles sociologiques en France, et avec leurs personnages les plus importants. Et alors, je prends d'abord Auguste Comte, qui a une certaine importance dans ce contexte, mais qui n'est pas dominant. Ce qui est dominant, c'est bien Durkheim. Alors, la Durkheim et les Durkheimiens, qui sont après le nom de Durkheim, c'est intéressant parce que ça montre que le système de référence des sociologues hongrois de cette époque, du début du siècle, suivait de près les rapports de force à l'intérieur de la sociologie française, à une exception près. Si on prend le contrepoint, les lepléistes, c'était la branche, là encore très rapidement, très conservatrice de la sociologie française datant de la fin du 19e siècle. Et on voit que Leplé aussi a pris dans le système des références des sociologues hongrois autant de place, autant d'importance que Durkheim, ce qui est un paradoxe qu'on peut expliquer par le fait que ces données viennent non pas des journaux spécialisés, mais de l'ensemble de la presse, près de 500 organes de presse hongrois. Donc il ne s'agit pas des spécialistes, il s'agit de la réputation en quelque sorte des auteurs français dans la presse hongroise. J'ai un indice très intéressant sur la référence intellectuelle de l'époque communiste, de la sociologie hongroise à l'époque communiste, prise dans la revue Valosha, qui était une sorte de revue culturelle générale et qui était à la fois la revue la plus ouverte à l'Occident et aux publications occidentales. Alors là, si vous pouvez lire les noms, il y a 3-4 groupes. Alors, premièrement, les auteurs français contemporains dans Valochag, et le nom de Bourdieu est absolument dominant là-dedans, surtout à la fin de l'époque communiste. Durkheim apparaît faiblement comme une référence classique, et les autres auteurs, curieusement, ne sont cités que beaucoup moins. Alors, de toute manière, c'est assez intéressant que dans cette situation, c'est Bourdieu qui ressort comme auteur principal de référence aux sociologues hongrois. Alors, si vous comparez, c'est d'autant plus intéressant que si vous comparez avec les Allemands, les chiffres de référence sont beaucoup moindres, sauf pour Max Weber. Max Weber, qui devient le grand classique à cette époque, dont l'image est reconstruite à la même époque comme un grand classique. Mais à part Max Weber, les autres ne sont pas, les contemporains sont moins bien cités, beaucoup moins, sauf évidemment le classique de l'époque, Marx. Marx, évidemment, c'est le... Cela dit, si vous prenez les citations de Marx, leur nombre diminue systématiquement d'une décennie à l'autre. Donc là aussi, on voit la modernisation intérieure des références culturelles en Hongrie au marxisme qui était obligatoire, en fait. Bien, avec ça, je conclue, puisque on me rappelle que je n'ai plus le temps. Je dirais que dans toute, je répète ce que j'ai dit au début, que dans l'étude des relations littéraires, il ne faut pas oublier que les relations littéraires ne font qu'une partie d'autres types de relations qui relèvent des relations de puissance entre État modèle et entre État modèle et le petit pays qui les reçoit, enfin qui les utilise pour la construction d'une culture nationale moderne. Bien, merci beaucoup.